France Inter. .fr.
On va pouvoir commencer ? Allons-y !
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Quand Montand disait « Vive la crise !» XXe anniversaire, début novembre 2011, de la disparition d'Yves Montand. Xème anniversaire de la crise. Souvenez-vous, début 1984, la croissance européenne est déjà en panne. Le président Mitterrand vient de choisir de ne pas décrocher le franc du système monétaire européen. « Il n'y a pas d'autre politique », a-t-il déclaré, s'engageant sur le chemin de la rigueur. Et Serge Julie, le directeur de Libération, de commenter « La France avait choisi la gauche pour que ça fasse moins mal, mais Mitterrand, ça fait mal aussi ». C'est à ce moment précis que sur Antenne 2 est diffusée le 22 février 1984 une émission qui va réunir et retenir le tiers des Français, un score auquel ne pouvait pas prétendre le président de la République, mais qui s'explique largement par la présence de l'animateur Yves Montand. Dans un grand show mêlant fiction, reportage, interview, le comédien citoyen jouait l'homme ordinaire aux prises avec la crise, celui qui demande à comprendre, mais à qui on ne la fait pas. Un quart de siècle après, retour sur cette émission avec l'un de ses participants. J'ai nommé Laurent Geoffrin, bonjour.
Bonjour.
Qui est aujourd'hui directeur de la rédaction du Nouvel Observateur et qui à l'époque était...
J'étais journaliste économique au quotidien Libération.
Alors souvenez-vous du contexte économique que j'ai esquissé, mais il faut aller plus loin. Le gouvernement Mauroy avait soutenu la politique de 83, de choix du non-décrochage, était à bout de souffle.
Presque imposé même, oui.
Le gouvernement était à bout de souffle, la contestation montait de partout.
Il y avait trop de dépenses déjà. Et donc il y avait un déficit extérieur carabiné, plus un déficit budgétaire. Et beaucoup de gens s'inquiétaient de l'équilibre économique du pays. Il y en a même qui disaient, bon, on va se retrouver au FMI, on va être obligé d'aller faire la quête. Enfin, la France va être obligée d'aller faire la quête pour se faire financer son déficit, puisqu'elle ne pourra plus payer.
Jacques Attali raconte d'ailleurs un rendez-vous entre le roi d'Arabie Saoudite et François Mitterrand à cette époque.
Et oui, parce que la France avait demandé un prêt à l'Arabie.
Ah.
Pour combler les trous, ouais, déjà.
C'est pour comme ça aujourd'hui, on demande... Que le roi est très cultivé.
J'imagine, oui. Il est reconnaissant. Mais comme aujourd'hui, l'Europe demande à la Chine. C'était le même mécanisme. Il y avait une crise financière très grave.
Alors, une invention télévisuelle habile. L'idée, c'était de mettre en scène l'accélération de la crise sous la forme d'un simulacre.
Madame, Monsieur, bonsoir. Le gouvernement a arrêté une série de mesures d'urgence destinées à enrayer l'aggravation des déficits des dépenses publiques. Voici une première liste de ces mesures dont Max Gallo vient donc d'annoncer la nature. Le nombre des médicaments remboursés sera considérablement réduit. Le montant du forfait hospitalier à la charge des malades est augmenté de 300%. Les retraites seront versées par la Sécurité sociale. Leur montant sera réduit de 20 à 70. L'indemnisation des chômeurs sera diminuée de 20%. D'autres mesures seront annoncées demain. On n'en sait pas plus pour l'instant, mais déjà ces décisions du gouvernement apparaissent évidemment comme un événement politique et économique majeur.
Rassurez-vous, cela n'est pas vrai. Ce flash est un faux et ces nouvelles sont imaginaires. Mais avouez que vous avez eu peur.
Le coup de génie, c'est de faire introduire Yves Montand, qui vient annoncer ces nouvelles catastrophiques, un peu comme dans le film d'Orson Welles,
voilà, c'est
l'arrivée des Martiens.
C'est ça la référence, bien sûr. Oui. Ouais.
Et Yves Montand, pourquoi le choix d'Yves Montand?
C'est un hasard, en fait. C'est que les concepteurs de l'émission avaient pensé à Bernard Pivot. Et Pivot n'a pas voulu, pour des raisons que j'ignore, une image avec apostrophe, etc. Il n'a pas voulu faire ça. Et puis, bon, il a fallu chercher quelqu'un. Et Jean-Claude Guibaud, qui était le principal rédacteur du texte de l'émission, connaissait Montand. Et donc, il est allé voir Montand en disant, voilà, on veut faire un grand show économique. Ça ne s'est jamais fait à la télévision. On veut quelque chose de très public, de très sérieux et en même temps, qui soit attractif, qui soit un spectacle. Et donc, l'idée de prendre un acteur était logique. Et Montand a dit tout de suite d'accord. Et on lui a mis et le cachet, comment on fait ? Non, c'est gratuit.
Oui.
Donc il a accepté de venir, il a fait une journée de tournage et il a mis en boîte toute l'émission dans la journée.
Dites juste une note en bas de page, acteur de complément, juste citer Max Gallo dans le bulletin d'information.
Max Gallo
de
à l'époque. Max Gallo sous Mitterrand était mitterrandiste, sous Chirac il était chiracien et sous Sarkozy il est sarkozyste.
Oui, mais il est porte-parole.
Il est porte-parole du gouvernement,
il est ministre,
François Mitterrand.
Oui,
il a rang de ministre quasiment.
Et comme directeur de cabinet à l'époque,
comment
François Hollande.
Oui, c'était son adjoint. Exact.
Bon, mais ça, ce
oui,
sont
absolument.
Des acteurs de second rôle, on n'en reparlera pas.
Oui, des gens sans importance.
L'acteur principal, Yves Montand.
Ah oui, vous avez eu peur. Parce que dans le fond, ces mesures, elles sonnent vraies. Elles donnent une idée de ce qui nous attend si la crise s'aggrave. Tous les jours, comme moi, vous entendez parler de catastrophes économiques, d'inflation, de chômage, etc. Alors qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est déréglé dans le monde ? Certains disent que c'est un cafouillage passager de l'économie. D'autres qu'il s'agit d'une catastrophe durable. D'autres enfin que c'est le début d'une véritable mutation, qu'un monde nouveau commence. Mais tout ça, c'est abstrait. Puis moi, je suis comme vous. J'aimerais bien y voir clair. Comme vous, je me sens embarqué, malgré moi, dans une énorme affaire qui m'échappe. Alors, comme vous l'avez sans doute fait, j'essaie de comprendre et de me faire expliquer tout ça clairement. En fin de compte, je me suis aperçu que leur fameuse crise, quand on en raconte l'histoire, toute l'histoire, cela peut devenir aussi passionnant qu'un film. Vous allez voir.
On va dérouler les différentes séquences, mais le principe, j'ai essayé de me comprendre et de me faire expliquer. Alors, mais me faire expliquer par qui ? Qui sont les vrais concepteurs, Laurent Geoffrin ?
L'origine, c'est un livre de Michel Albert. Alors, il faut rappeler qui est Michel Albert. C'était l'économiste de Jean-Jacques Semanchreber. C'était un mendésiste, il était du Parti radical. Et c'était un inspecteur des finances. À l'époque, il était dirigeant d'une compagnie d'assurance.
Les AGF, les AGF.
Et il s'occupait du plan. Il avait été commissaire au plan. Et donc, c'était un très bon énarque, un très bon économiste qui... faisait des livres d'explication qui étaient orientés, hein, qui étaient du centre-gauche ou centre-droit, selon ce qu'on voulait, et qui avait une vision, alors, on peut dire réaliste, d'autres diront technocratique. Et à l'époque, on ne disait pas encore la pensée unique. Mais enfin, c'était déjà le prémisse de cette idéologie-là, c'est-à-dire une idéologie à la fois libérale en matière économique et autant que possible progressiste en matière sociale et sociétale.
Aujourd'hui, parmi les détracteurs de cette pensée dite unique, on lit dans les colonnes d'un journal qui s'appelle Le Nouvel Observateur, Jean-Claude Guibaud. Et Jean-Claude Guibaud, vous l'avez cité comme le principal rédacteur de l'affaire.
Oui, parce que c'était lui qui était l'éditeur de Michel Albert. Et donc, l'autre conceptrice, c'était Pascale Brogniaux, que vous connaissez sans doute.
C'est la productrice pour
Antenne
2.
Une grande productrice de télévision qui après est passée à TF1.
Antenne 2 qui était dirigée encore par Pierre Desgroupes à l'époque.
Absolument. Et donc, l'idée, c'était d'innover en matière télévisuelle. C'est ça qui a fait aussi le succès. C'est que on était des naïfs, des néophytes plus exactement. Et donc, on a utilisé tous les moyens de la télé en les détournant. Donc, on a fait un faux JT, on a fait des fausses interviews... des faux reportages, enfin tout ça a été, on a utilisé des comédiens à la place des vrais acteurs, enfin on a fait tout, c'était
et on a
présenté
utilisé
tel, hein,
des pas... hommes politiques comme des comédiens, Michel Jobert par exemple,
voilà,
qui était un ancien ministre de Mitterrand, dit
on a mélangé Jobert avec un acteur qui imitait Jean Gabin et qui expliquait qu'il était contrebandier, que grâce aux mesures prises par la gauche, enfin je sais pas si c'était la gauche d'ailleurs, il y avait des mesures protectionnistes, alors lui évidemment faisait de la contrebande contre pour profiter finalement de la fermeture des frontières.
Et Jobert d'ajouter, comme Mitterrand ne m'écoute pas, quand je parle à la télé dans un faux rôle, là, il m'entend. Alors, ça commence par la description de la situation. Et figurez-vous, chers auditeurs, que nous vivons les prémices de la mondialisation, que le monde est en train de basculer.
Comme on dit, et comme on me l'a expliqué, nous avions des privilèges historiques. Or, c'est peut-être dur à admettre, mais à présent, cela est changé. Comme est changée la carte du monde de fond en comble. La plupart de ces privilèges sont bel et bien perdus. C'est fini. Fini l'énergie bon marché. Sous De Gaulle, le pétrole coûtait 2 dollars le baril et le dollar à 4 ans. Sous Giscard, il en coûtait 18. Sous Mitterrand, c'est 30 dollars et le dollar à 8 francs 30. Cela fait 30 fois plus. Fini les matières premières, pour presque rien. Aujourd'hui, des choses comme le cuivre, le fer, le nickel ont suivi le même chemin que le pétrole. Fini la jeunesse. Vous savez tous que la natalité chez nous s'est effondrée et que l'Europe devient un continent de vieux. Mais savez-vous aussi qu'au rythme démographique actuel, la population d'un pays comme l'Allemagne de l'Ouest, par exemple, aura pratiquement disparu dans 3 siècles. Et enfin, finit la puissance militaire. Savez-vous que de petits pays comme la Syrie, Israël ou le Vietnam ont davantage d'avions et de chars que la France?
Alors, il faut donner le contexte pour comprendre, parce que cette émission est, à mon avis, irregardable aujourd'hui, parce qu'elle prend la crise un peu à la légère, et elle dit, bon, c'est une occasion de rebondir, etc. Ce qui est un discours qu'on a beaucoup entendu depuis, et qui, très logiquement, énerve tous les gens qui souffrent de la crise depuis 20 ans. Mais c'était le début, à l'époque. Et le contexte, c'était une pensée dominante qui était largement étatique. La gauche venait de gagner les élections, elle avait mis en œuvre son programme, qui était un dérivé du programme commun. Et donc l'ensemble du secteur bancaire avait été nationalisé, et la moitié de l'industrie française, ce qui ça fait beaucoup. Et on se retrouvait dans un pays qui était à moitié la propriété de l'État. Et donc il y avait cette pensée selon laquelle les valeurs collectives devaient l'emporter très largement sur l'individualisme et sur le marché.
Et dans le vaste monde que décrit Montand, c'était le contre-exemple américain.
C'était le début du contraire. Voilà. C'est-à-dire qu'en 80, Reagan est élu, en 79, c'est Thatcher. Et donc c'est le début de la vague libérale. Donc la gauche était à contre-courant. Et beaucoup de gens, avant 80... Rocard, par exemple, avait mis en garde en disant on va trop dépenser, on va faire une politique qui va se heurter à des réalités économiques et c'est dangereux. Rocard avait été battu, Mitterrand l'avait emporté et on avait mis en œuvre cette politique qui est effectivement étatique, alors qu'on peut trouver bonne d'ailleurs, peu importe, mais ceux qui avaient joué les Cassandres se trouvaient confirmés puisqu'effectivement il y avait un mur financier sur lequel la gauche s'était... non pas fracassée, mais enfin, c'était cognée très, très sévèrement. Elle était obligée de faire ce qu'on appelait à l'époque le tournant de la rigueur. Et donc l'émission a traduit de manière polémique et de manière visuelle le tournant de la rigueur, c'est-à-dire la conversion de la gauche française au réalisme économique.
Et puis, son observation d'un monde qui bascule avec le modèle Reagan-Thatcher, et puis aussi des situations monétaires imprévisibles qui bousculent tout.
Une chose qui est peut-être plus dangereuse que tout le reste, c'est le désordre monétaire international. Imaginez qu'un pays refuse de payer ses dettes.
Le Mexique ne paiera pas. 3 semaines après son retour au pouvoir, le président López Portillo déclare, devant une foule estimée à plus de 700 000 personnes, que son pays annule unilatéralement la dette de 80 milliards de dollars qu'il avait contractée auprès des banques occidentales. Diffusé dans tout le pays, le discours du président López Portillo provoque des explosions de liesse nationaliste et rallie au gouvernement toutes les forces politiques et syndicales de la nation. Il est 9h du matin au Japon. C'est à la bourse de Tokyo que la décision mexicaine fait sentir ses premiers effets. Les actions des banques les plus engagées au Mexique commencent à baisser. Le dollar s'effrite et l'or gagne 10 points en une séance. D'est en ouest, l'onde de choc se répercute sur toutes les places financières. À Koweït, la baisse s'amplifie. À Londres et à Paris, elle s'étend à toutes les valeurs bancaires. À New York, une dizaine d'heures plus tard, c'est la chute libre.
Alors le scénario de ce mini-film de demi-fiction qui est à l'intérieur de Vive la crise 84, c'est signé ?
C'est moi qui l'ai fait.
Oui, Laurent Geoffrin.
Oui, enfin, c'est une contribution modeste, mais vraiment, j'ai fait ça.
Quand même,
ce qui est amusant,
j'avais
pas entendu depuis très longtemps, vous remplacez Mexique par Grèce, et le reste ne change pas, hein, c'est la même chose. Et effectivement, à l'époque, on ne savait pas bien ça, parce qu'on sortait des 30 glorieuses, c'est-à-dire d'une période de croissance très rapide, et avec des... Certes, il y avait quelques désordres monétaires, mais on savait les maîtriser. Et donc là, on a pris l'idée toute simple, c'est mais s'il y a un pays qui fait faillite, comme aujourd'hui la Grèce, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que ça fait une crise boursière, une crise monétaire, et que ça oblige ensuite les gouvernements à prendre des mesures draconiennes et extrêmement dures et impopulaires. Alors, c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui.
Si.
Et peut-être que l'avertissement réel de l'émission... n'a pas été entendu.
Oui, parce qu'il y avait un avertissement. Prenez quand même la crise beaucoup plus au sérieux que vous ne le dites, Laurent Geoffrin, dans l'émission d'Yves Montand, lequel répétait « Attention, on a l'impression d'être à l'abri, mais c'est une idée fausse parce que le modèle social français, un peu particulier, nous protège encore un moment. » Et il y a une critique du modèle social français, les menus privilèges, une sorte de toile d'araignée avec tous ses menus privilèges.
Ça, c'était
inspiré. Et tissé sur la République. C'est Jean-Claude Guibaud qui écrit ça dans Libération.
Oui, absolument. Et c'est inspiré du livre de Clauset qui s'appelait Toujours plus, qui était une mise à jour, une description un peu ironique et polémique, elle aussi, des sous-privilèges. Les grands privilèges, c'est des gens très riches, mais il y avait des sous-privilèges, des gens, des professions protégées, des professions qui bénéficiaient de tel ou tel avantage. Donc il y avait cette ambiance comme ça de dénonciation des acquis sociaux qu'on pouvait considérer comme injustes ou excessifs.
Ces professions dites privilégiées, on va entendre un demi-fonctionnaire d'EDF défendre ses kilowatts gratuits. Ça consistait quand même à rendre coupables ceux qui n'étaient pas vraiment responsables.
Ah oui, non, je veux dire, c'était une émission qui était faite de provocations permanentes contre ce qui était à l'époque une pensée dominante, qui ne l'est plus du tout aujourd'hui, mais qui l'était à l'époque. Et donc tous les dogmes, soit de gauche en général, soit jacobin à la française, étaient systématiquement tournés en dérision ou attaqués, de manière, à mon avis, excessive. Et encore une fois, aujourd'hui, ça passerait pas. Mais bon, à l'époque, ça pouvait s'expliquer par le contexte et par le fait qu'il y avait un certain nombre d'illusions qui avaient été dispensées dans le corps social et qui se fracassaient sur le réel.
Et puis ça passait parce que Yves Montand était un ex-pauvre.
Dans les années 30, la crise économique, cela se voyait. Oui, ce que les gens réclamaient à l'époque, c'était des choses essentielles. Manger, survivre. Aujourd'hui, bien sûr, il y a des revendications importantes et des millions de chômeurs vivent dans l'anxiété. C'est vrai. Mais il y a aussi certains problèmes qui font la une des journaux et qui tout de même n'ont rien à voir, mais alors vraiment rien à voir avec les drames de 1929. Certaines de nos revendications dans nos pays pourraient faire sourire. Tout le monde réclame. Le 13e, le 14e, quelquefois le 17e mois. La sécurité de l'emploi, davantage de vacances, moins de soucis, etc., 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 etc. Parfois, on a raison, mais souvent, on exagère.
Ça se concrétise comment dans votre vie courante?
Par un certain nombre de services que nous supprimons. L'employé de maison, c'est simple. Je crois qu'il doit y avoir une trentaine de mille ou 50 000 Français qui ont fait comme moi, qui, à un moment donné, ont supprimé leur employé de maison.
Vos avantages en nature, vous y tenez?
On y tient plus que jamais. C'est un élément de notre rémunération.
Combien vous payez kilomètre?
4 centimes au lieu de 45 centimes pour un usage domestique. Donc ça fait partie de nos salaires, on ne doit pas y toucher.
Mon problème, je dirais le problème de tous les personnels, c'est que nous sommes contraints et forcés de quitter les locaux de la Maison de la Radio que nous occupions depuis juillet 1976 pour emménager sur décision gouvernementale dans une tour située dans le 15e arrondissement. Or, cette tour a air conditionné, et d'autre part, il n'y a aucune possibilité d'aération extérieure, c'est-à-dire que les fenêtres sont totalement fermées.
Je ne suis pas riche à millions, je suis tourneur chez Citroën. Je peux pas me payer des distractions tous les jours de la semaine. Aussi, moi, j'ai mes petites manies qui me font plaisir et ne coûtent rien. Ainsi, dès le travail fini, je file entre la porte Saint-Denis et le boulevard des Italiens. J'aime flâner sur les grands boulevards. Il y a tant de choses à voir. On y voit des grands jours d'espoir, des jours de colère qui font sortir le populaire. Là vibre le cœur de Paris, toujours ardent, parfois frondeur, avec ses chants, ses cris. Et de jolis moments d'histoire sont inscrits partout le long de nos grands boulevards.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Laurent Geoffrin, nous parlons de Vive la crise, l'émission où Yves Montand, disparu il y a de cela 20 ans, était le porte-parole des idéologues Michel Albert et Jean-Claude Guibaud, après avoir été le chanteur prolétarien que l'on sait.
Il avait quitté le Parti communiste, c'était ça l'histoire. Son personnage public était lié à son talent de chanteur, de comédien, mais aussi au fait qu'il était un communiste très convaincu, et qu'il avait fait une sorte d'apostasie publique, d'ailleurs, dont il avait fait l'apothéose 3 mois auparavant à la télévision, au moment d'un dossier de l'écran. Il avait pris l'antenne à 11h, Et à 1h15 du matin, il y avait, je sais pas, 10 millions de personnes qui le regardaient, quoi, parce qu'il expliquait comment il s'était détaché du communisme.
Donc il était désidéologisé et non pas porte-parole de nouveaux idéologues.
Plus que ça, c'est que Montand, au fond de lui-même, il y avait des gens autour de lui, il y avait Kouchner, il y avait des gens comme ça qui pensaient qu'il pouvait éventuellement, comme l'avait fait Reagan, qui était un ancien comédien, jouer un rôle politique et se présenter le jour venu à l'élection présidentielle. Et donc il y avait des articles dans la presse qui disaient le président Montand, va-t-il être candidat, etc. Enfin, ça est devenu aujourd'hui, on dirait, un buzz autour de Montand qui allait jouer un rôle politique et qui allait se présenter après Mitterrand pour succéder à Mitterrand.
Mais l'homo politicus qu'il aurait pu devenir ne se prenait pas vraiment au sérieux. Alors, dernier.
Oui. Ah si. Moi, il m'avait dit, pendant le tournage de l'émission, il m'avait pris à part, il m'avait dit, tu vois, petit... Puis il appelait tout le monde petit, alors, tu vois, petit Reagan, bah, c'est un comédien, hein, il n'a pas vraiment la culture politique, mais il a des bons conseillers, hein. Bah, moi aussi j'en ai.
Alors il avait de bons conseillers, et qui lui disaient, n'écoutez pas les solutions toutes faites, les solutions du genre, il n'y a qu'à fermer les frontières, il n'y a qu'à multiplier les emplois publics.
Éviter l'immigration en France.
Il n'y a qu'à allonger l'âge de la retraite et prolonger les études.
Ah, il y a beaucoup trop d'étrangers.
Voter d'urgence une loi interdisant les licenciements.
Et oui, il n'y a qu'à. Vous connaissez la formule. Il n'y a qu'à.
Si l'on se met à prendre les gens au mot, si l'on applique réellement certains de ces remèdes, bien, on s'aperçoit vite qu'ils sont pires que le mal. Alors, le tout premier, bien entendu, les émigrés. Puisqu'il y a 2 millions de chômeurs, il n'y a qu'à expulser 2 millions d'émigrés. Bon, ça y est, c'est fait. Ils sont partis. Quelle est la situation de la France? Pour nous aider à répondre, on a imaginé un reportage fait par la télévision algérienne sur la France sans émigrés.
Il y a 3 mois, les Français avaient applaudi la tragique décision de leur gouvernement d'expulser tous les travailleurs immigrés. Aujourd'hui, des tonnes d'ordures s'amoncellent. Dans la plupart des grandes villes, des hordes de rats ont refait leur apparition. L'armée a été réquisitionnée, mais elle n'arrive pas à endiguer le fléau. Mais il y a plus grave encore. Toute l'économie française a été atteinte de plein fouet par la mesure. En 3 mois, la production automobile a chuté de 40%. Elle manque d'OS. Les bâtiments et les travaux publics sont en faillite. Regardez cet homme. Il est président-directeur général d'une fabrique de meubles de bureau. Une partie de ses ouvriers étaient des travailleurs immigrés. Son usine est actuellement arrêtée.
Il est tout à fait évident que nous n'avons pas trouvé sur le marché français, bien qu'il y ait un nombre de chômeurs très important, le personnel exactement qualifié pour les remplacer.
Face à cette situation, les Français déchantent.
C'est le foutoir.
C'est maintenant qu'on s'aperçoit que les immigrés avaient quand même une tâche qui était intéressante pour la France.
Je pense qu'il aurait fallu garder ceux qui travaillent pour faire le sale boulot, quoi.
Février 84, la date de Vive la crise. Juste 10 jours avant l'émission d'Yves Montand, à l'heure de vérité, sur la même chaîne, Jean-Marie Le Pen.
Et oui, c'était un an après le début de l'envolée du Front National, enfin l'envolée, la percée du Front National. Et évidemment, dans le scénario, l'idée qu'on pouvait faire partir les immigrés pour qu'ils ne mangent pas le pain des Français, comme disait Fernand Reynaud, était dans l'air. Donc on a dit, bon, ben alors, imaginons qu'on le fasse vraiment, qu'est-ce qui se passe? Et effectivement, comme les immigrés font souvent des métiers ou des travaux que les Français n'aiment pas faire, ça posait des tas de problèmes. Alors évidemment, c'est caricatural ce qu'on raconte, mais cette idée est toujours dans l'air.
Le tiers des Français regardaient cette émission. 11% des électeurs ont voté Le Pen aux européennes de juin 84, 3 mois après l'émission.
Pour bien que la télévision n'a pas grande influence. Oui.
Alors, dernier volet, cette crise peut être une mutation si on sait trouver les bonnes solutions. Alors, la bonne solution, c'est l'Europe. À l'époque.
Oui,
Et une drôle d'Europe, des États-Unis d'Europe.
Oui, alors là aussi, provocation totale. Les États-Unis d'Europe sont constitués, je ne me souviens plus sous quelle forme on avait présenté ça.
Oh, hyper fédératiste.
Qui était président de l'Europe? Margaret Thatcher. Oui, pour les gens de gauche, c'était l'horreur absolue. À juste titre, d'ailleurs. Mais bon, ça faisait partie du jeu dont on avait nous-mêmes posé les règles, qui consistait à affronter directement toutes les idées reçues. Y compris les plus honorables ou les plus justes. C'était une émission de provocation.
Cette émission recommandait aussi de créer, plutôt que des emplois industriels, des emplois tertiaires, des emplois de service, des emplois culturels, comme Yves Montand lui-même, au fond, en animait.
À peu près un tiers de l'industrie française
est aujourd'hui, je dirais pas seulement compétitive, mais hyper compétitive. Et vous savez, il y en a dans la plupart des secteurs, Yves Montand. Ben moi, je vais vous dire, la première qui me vient à l'esprit, vous savez pas laquelle c'est ? Non. C'est l'entreprise Yves Montand. Est-ce qu'on vous avait expliqué que vous fabriquez des emplois, vous ?
Ah ben non, c'est vrai.
D'ailleurs. Ah, vous ne le saviez pas, ça. Et vous pourriez m'expliquer comment vous faites pour fabriquer des emplois ?
Ben, quand on part en tournée, je sais que j'ai amené près de 40 personnes. Nous étions 40 avec les musiciens, les machinaux, les électros, les camionneurs, les camions et tout.
Eh ben c'est déjà pas si mal. Je connais par exemple, tenez, un de mes anciens camarades de l'ENA, un énarque. Et un énarque de mon pays. D'un vieux pays, vous savez, traditionnel, qui est la Vendée, dont on croit que c'est un pays même un peu attardé. Ben, ce type, il a fait des choses fantastiques. Il est à la fois l'homme de l'association, l'homme de la tradition et l'homme de l'ordinateur.
J'avais un rêve d'enfant que je voulais accomplir.
Et ce rêve, il consistait finalement à marier la tradition orale et l'ordinateur, c'est-à-dire à mettre en valeur une histoire, un pays, un patrimoine, avec les technologies les plus modernes.
Le Puy du Fou, c'est aujourd'hui, bien sûr, la quadriphonie, le laser, l'électronique, le stroboscope, l'informatique, mais c'est surtout 30 000 habitants, originaires de 13 communes, 1500 membres actifs dans l'association, dont 650 acteurs, qui jouent sur une scène de 13 hectares et qui accueillent chaque été 250 000 spectateurs, avec un budget, le budget de l'association du Puy du Fou, qui est de 1 milliard de centimes.
Alors dites-moi, Michel Albert, qui amène, je ne sais pas si c'est lui qui l'a amené,
c'est lui,
vraiment,
c'est Michel Albert, l'exemple
de Philippe de Villiers, comme non, le créateur des emplois de demain, c'est une provocation, monsieur Geoffrin.
Oui, objectivement, vous avez absolument raison, sauf qu'on s'est fait avoir. Moi, on ne savait pas qui c'était, de Villiers. Donc Michel Albert, on dit, voilà, Albert, on lui dit, bon, vous qui êtes dans le patronat, tout ça, vous ne connaissez pas un entrepreneur culturel un peu marrant, etc., qui fait des choses intéressantes. Et Albert répond, mais si, j'en connais un, il est formidable, c'est Philippe de Villiers qui a monté un spectacle de son et lumière en Vendée. Et alors, il dit, bon, bah, très bien. Alors, ça, pour nous, ça avait l'air d'un associatif, quoi, qui est mais alors, plus intéressant, parce qu'il venait de l'administration, il était énarque, et puis après, il avait démissionné, puis il avait fait son Puy du Fou. Et on n'avait pas du tout idée qu'il était aussi réactionnaire. On s'en est aperçu le lendemain de l'émission.
Oui, et puis un certain nombre de membres de l'équipe de Libération qui étaient partenaires
oui,
de l'émission
le correspondant,
vous l'ont fait sentir.
Le correspondant à Nantes a dit, mais attendez, de Villiers, c'est l'ennemi absolu de tout ce qui est de gauche dans le département, ce qu'on ne savait pas.
Voilà. Mais plus profondément, le choix de ce type d'emploi. Aujourd'hui, Le Monde titre en une « L'erreur fatale de la désindustrialisation ».
Il y a eu une illusion à l'époque qui était celle de la tertiarisation de l'économie, du fait que les services, que tout ce qui était économie de la connaissance, du service, etc., allait supplanter l'industrie. Erreur tragique, effectivement, parce que on voit bien dans la crise d'aujourd'hui, la force de l'Allemagne, c'est son industrie, et la faiblesse de la France, c'est précisément qu'on a désindustrialisé, qu'on a laissé s'installer une désindustrialisation du pays.
Conclusion sur Laurent Geoffrin, qui était un des maîtres d'œuvre, modeste. Vous êtes passé de Vive la crise au Nouvel Observateur. titre du 27 octobre, crise, comment sauver votre argent? Quand même, c'est un progrès de la gauche, là.
Non, c'est un dossier de service, c'est utile de savoir comment sauver votre argent.
Mais à qui s'adresse cette gauche qui est censée représenter le Nouvel Observateur?
Les gens de gauche, ils ont des économies.
Enfin, ce qui est bien, conclusion sur Yves Montand, c'est que Yves Montand a fait progresser le niveau de culture économique.
L'émission a joué un rôle politique, qui est très contesté, évidemment, à juste titre. Mais bon, elle avait ce mérite d'être une pédagogie de la crise facile à regarder et drôle. Et elle a eu plus de succès que certaines diffusions de la Grande Vadrouille, quand même. Donc c'est pas mal, de ce point de vue-là.
Il y a 20 ans disparaissait Yves Montand. Il y a plus d'un quart de siècle, l'émission Vive la crise sur France 2 le 8 novembre, un documentaire de Rotman, et sur Arte le 6 novembre, dimanche, une théma sur Yves Montand, Homo Politicus, Dofar Guéry, de Grégory Wallon, Jacques Sigal, et à la préparation de cette émission, Meryl Moneghetti, Franck Olivard et Frédéric Martin.